Les lecteurs interviewent d'autres lecteurs. Nous avons voulu mettre en lumière les imaginaires de trois usagers, lecteurs de la BEP, enregistrés lors d'un atelier d'initiation au podcast qui a eu lieu le 16 février 2025 en résonance avec l'exposition Nos Imaginaires.
Ok, bon, on est aujourd'hui à la BEP avec Monsieur Sun. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci pour votre invitation.
Oui, Monsieur Sun, il fait régulièrement des recherches historiques à la BEP. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Je m'appelle Sun Jiangeng, mais mon nom de famille, c'est Sun, S-U-N. Je suis originaire de Chine. Je vis en France depuis une vingtaine d'années.
Et que faites-vous dans la vie?
D'un côté, comme je suis chercheur, j'ai un doctorat en sciences politiques, mais spécialisé dans le journalisme international. Et comme l'autre côté, je suis journaliste, je travaille toujours dans le monde journalistique. Puis je suis enseignant aussi. Enseignant comme dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur avec le cours communication Infocom.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre travail?
Le travail journalistique, vraiment, c'est un travail passionnant. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est ma passion. J'ai débuté ma carrière journalistique à Toulouse. À l'époque, j'ai fait mes études à Sciences Po en journalisme. À l'époque, il y a on dit c'est encore un DSS, équivalent comme master comme aujourd'hui. Et puis, comme j'ai fait plusieurs stages, d'abord au journal, à l'époque, il y a un journal qui s'appelle, c'est le journal Toulousain. Et puis, j'ai fait plusieurs stages à la Dépêche de Midi aussi. Et puis, j'animais, il y a 20 ans, une émission intitulée « Ni Hao » à la radio Occitania. Aujourd'hui, je travaille toujours dans le monde comme journalistique. Depuis avril dernier, j'ai animé une émission toujours Ni Hao à Radio Mon País.
Et depuis quand venez-vous ici à la BEP?
Quand j'étais étudiant, je suis venu plusieurs fois, mais pas très souvent, parce que quand j'étais étudiant, il y a des bibliothèques universitaires. Aussi, c'est l'année dernière. Comme avant, j'étais à Paris. Le travail a commencé à Paris. Et puis, l'année dernière, je suis redescendu de Paris à Toulouse. Donc, j'ai essayé de continuer mes recherches, toujours sur le journalisme. Je suis venu commencer à travailler sur mes recherches. Chercher des documents, des découvertes aussi. Il y a pas mal des anciens livres. Vraiment, c'est un trésor pour moi. Au début, j'ai continué mes recherches sur l'histoire de la présence des médias français en Chine. Parce que avant, quand j'étais à Paris, j'ai travaillé beaucoup avec la BNF aussi. Mais à Toulouse, à la BEP, j'ai découvert comment il y a une collection importante du journal à l'époque qui s'appelle l'Écho de Shanghai. Ouais, c'est entre 1900 à peu près 21 jusqu'à 26, je ne me trompe pas, jusqu'à 26, une collection complète. Vraiment, c'est génial pour moi. J'ai découvert pas mal des choses très, très intéressantes pour enrichir le corpus de mes recherches aussi. Oui.
Et que vous apporte ces recherches à la BEP dans votre travail?
D'abord, j'ai découvert des documents impressionnants. C'est une richesse locale. Et puis, j'ai un ami qui travaille à la bibliothèque à Toulouse aussi, donc il m'a raconté l'histoire de la BEP et puis j'ai essayé de profiter de ma présence à Toulouse pour encore creuser quelque chose encore intéressant. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé il y a quelques mois sur un grand explorateur toulousain qui s'appelle Gaston de Roquemorel. Pourquoi c'est un grand explorateur? D'abord, il a fait deux voyages du monde à l'époque entre 1830 et jusqu'à 1854. Ces deux voyages qui lui permettent de ramener pas mal des objets aussi que j'ai découverts au Muséum de Toulouse. Et puis comment son histoire, c'est impressionnante aussi. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est né à Toulouse, mais il n'y a pas beaucoup de documents, même au niveau national, pas beaucoup de documents sur lui, parce que ses voyages, c'est totalement méconnu. Pourquoi méconnu ? Parce qu'à l'époque, il y a encore des grands explorateurs, comme on parle beaucoup de l'abbé Rousse, c'est dans la région aussi. Donc, j'aimerais bien essayer de retracer, comment c'est, reconstituire son itinéraire de Marseille jusqu'à comme en Chine, en Asie, parce que surtout, il a vécu pendant plusieurs mois, mais je n'ai pas trouvé comment encore des informations bien précises sur son histoire. Donc, avec l'aide des bibliothécaires qui m'ont beaucoup soutenu, même parfois des manuscrits, c'est très difficile à reconnaître pour moi. Juste en parenthèse.
Oui, c'est vrai qu'il y a des choses autrement inaccessibles s'il n'y avait pas la BEP. Donc, Monsieur Sun, ça fait 20 ans déjà que vous êtes en France et on se demandait quel est l'écart entre la France que vous aviez imaginée avant d'y vivre et c'est ce que vous vivez aujourd'hui.
C'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que, comme il y a une vingtaine d'années à l'époque, les informations qui circulent pas si faciles comme, par exemple, l'Internet, pas très popularisé ou démocratisé, quand même pas très accessible à l'époque. Donc, en Chine, c'est l'image de la France. On parle toujours, c'est un peu sur le mot, comment on dit, c'est un mot très important. On parle toujours le romantisme. Quand on parle les Français ou la France, c'est un pays romantique, malgré comment c'est un mot, c'est importé de l'Angleterre, c'est pas un mot français. Mais comment, à l'époque, pour moi, c'est, je ne connais pas grand-chose, sincèrement, comment que on parle Paris ou Bordeaux, etc., Marseille, mais jamais on parlait de Toulouse. Et puis aussi, comment un autre point, c'est pour moi, c'est la France est quand même, c'est très loin. Je n'ai pas imaginé un jour je viens en France pour faire mes études, parce qu'à l'époque, la plupart des étudiants chinois qui partent plutôt dans les pays anglo-saxons. Quand même, si on vient en France, on doit encore apprendre une autre langue. Le français, quand même, c'est hyper compliqué. Et puis, un autre, comment c'est bon, c'est sur le cinéma, parce qu'il y a un film, c'est à l'époque hyper connu en Chine, qui est La Grande Wadhui, de Louis de Funès. Donc, à part ces éléments, vraiment, vraiment, je connais quelques grands noms de l'auteur, mais je n'ai pas beaucoup lu, comme Victor Hugo. Hugo, et puis c'est Molière, tout le monde qui le sait même. Mais en Chine, on parle beaucoup, c'est la France est le premier grand pays occidental qui a reconnu la Chine en 1964 avec l'établissement diplomatique. Tout le monde, tous les Chinois presque qui connaissent cette histoire. Quand on parlait de la France, toujours on remercie beaucoup le général de Gaulle qui a conduit cette reconnaissance. Ça permet à la Chine d'ouvrir les relations ensuite, avec établir des relations diplomatiques avec les autres pays. Mais une fois, quand je suis arrivé en octobre 2000, vous voyez, c'est 25 ans déjà, quand je suis arrivé à l'aéroport de Roissy, il y a des Chinois qui nous ont accueillis. Et puis, il m'a accompagné dans le 13e arrondissement. Je me suis dit, ah oui, c'est pas la France, c'est en Chine. Parce que vous voyez, on voit les mots comme des Chinois partout. Même il y a des Chinois dans les rues. Donc, ah oui, c'est la première image que j'ai reçue, la France. Et puis, bien sûr, comment il y a très, très. Pour moi, c'est plutôt comment c'est la façon de penser entre les deux peuples, ou des Chinois, ou des Français. C'est très différent en raison de la culture, bien sûr, profonde différence.
Selon vous, comment est-ce que la culture d'une personne peut influer sur son imaginaire?
Selon moi, comment c'est très personnel, il y a une influence très importante parce que, comme on fait le journalisme, les médias qui façonnent l'image aussi. Sur l'autre, on dit que l'autre, c'est-à-dire comment c'est plutôt dans la sociologie, on parle de l'autre. Les médias, comme les journalistes, bien sûr, il y a des livres, des tableaux, etc. On dit que c'est des supports médiatiques qui essayent de connaître. On dit que c'est dans l'imagination, imaginaire. Mais c'est quand même, pour moi, le tout, c'est d'un côté, façonner comment c'est l'image. Mais l'autre côté, comment on peut essayer de décoder comment c'est cette image, c'est comprendre les signes, comprendre le symbole ou la représentation. Ce genre de signes, ça c'est un peu compliqué aussi. Parce que, comme on revient à votre question, c'est tout dépend de la culture des personnes qui reçoivent, qui arrivent à comprendre les signes véhiculés, les informations qui véhiculent aussi. Je ne sais pas si...
est-ce que le monde de l'imaginaire a la même place en France et en Chine?
Moi, je trouve que je ne suis pas vraiment capable de répondre à cette question, mais juste donner un point de vue, c'est aussi important, même pour les Chinois, ça occupe une grande place. Pourquoi? Parce que quand même, vous savez très bien comment c'est la culture chinoise, quand même, il y a une longue histoire, quelquefois on dit que c'est 5000 ans, etc. Au fil de temps, il y a une évolution, bien sûr, imaginaire, sont évolués aussi. Mais en France, comme je n'ai pas beaucoup lu, surtout la littérature classique, mais quand même, c'est les Français qui s'intéressent dès le 17e siècle à la culture, surtout la littérature classique chinoise. Il y a des grands sinologues qui introduisent cette grande littérature en France. Mais je ne connais pas exactement l'imaginaire en France. Je connais très peu de choses. Juste là, on disait les fables de Fontaine, quelquefois. Bien sûr, il y a une grande littérature classique aussi. Oui.
Mais par exemple, est-ce qu'en Chine, c'est valorisé l'imaginaire? Est-ce qu'on vous invite à explorer l'imaginaire?
Oui, c'est très valorisé. Pourquoi? Parce que dès à l'école, on disait même maternelle, élémentaire, on a déjà enseigné dans l'école avec une certaine façon. Mais quelquefois, ça servit plutôt à construire une idéologie patriotique. On dit bien sûr héroïque. Parfois aussi, c'est pour combattre des démons ou des personnages, on dit c'est maléfique, etc. Mais quand même, pour nous, dans l'enseignement, on essaye de construire cette imaginaire, pour que les jeunes, dès l'enfance, les petits, avoir commencé confiance en notre propre culture.
Et vous, comment est-ce que vous mélangez les deux cultures françaises et chinoises ?
Pour moi, c'est un peu étrange quand, par exemple, je vous donne un exemple, quand je suis retourné en Chine, les Chinois, mes amis chinois, souvent m'ont dit c'est, ah oui, vous êtes un peu francisé. Même quelquefois, francisé, c'est qu'est-ce que signifie ? Mais quand, comme je suis en France depuis une vingtaine d'années, mais je suis toujours un étranger, quelquefois ni chinois, ni français. C'est un statut, c'est un peu délicat, entre guillemets, bien sûr. Mais quand j'ai regardé quelque chose, bien sûr, je suis déjà influencé par la culture française. Je porte quelquefois un autre regard. Ni français, ni chinois non plus. Donc, quelle est vraiment l'influence précise ? Je n'arrive pas à bien préciser, mais quand même, je porte un autre regard, surtout avec un regard critique par notre métier. Ouais.
Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire populaire aux enfants en Chine ?
Il y a pas mal d'histoires très intéressantes. Je vous donne un exemple. Dans la littérature classique chinoise, comme on a beaucoup d'histoires comme l'expression française, en France, équivalent à peu près. Mais pour nous, quelquefois, il n'y a que 4 caractères qui racontent une histoire importante, intéressante, parfois philosophique. Comme ma fille, elle est petite, je lui expliquais chaque fois une petite histoire, essaye de faire connaître, comprendre. Il y a pas mal de ce genre d'histoires, comme vraiment la littérature chinoise est riche. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, depuis 2 semaines, il y a un film qui s'appelle Ne Zha. C'est un petit jeune divinité issu de l'imaginaire chinois. Il y a une longue histoire aussi. Ce récit qui raconte comment c'est le petit divinité qui combat avec des démons, des personnages maléfiques qui aident les villageois contre, par exemple, la sécheresse, ou qui contribuent leur vie quotidienne aussi. En chinois, on dit c'est Ne Zha, mais maintenant, apparemment, il n'y a pas vraiment le nom traduit en français, non. Parce que comment c'est vraiment... Ce film a remporté un grand succès de tous les niveaux. En 2 semaines, il y a, si je ne me trompe pas, il y a combien à peu près 200 millions d'entrées qui fait vraiment un carton extraordinaire.
Et ici en France, est-ce qu'il y a une histoire ou un conte qui vous plaît ?
Comme tout à l'heure, je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup lu, mais les fables de Fontaine qui m'a beaucoup... En effet, quelquefois, j'essaie d'apprendre à ma fille aussi. Ouais. Sinon, vraiment, désolé, je n'ai pas grand-chose à dire.
Et pour revenir sur le titre de votre émission, Ni Hao,
oui.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Ni Hao, parce que pourquoi Ni Hao ? D'abord, c'est le bonjour en chinois. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ni hao, parce qu'il y a beaucoup de Français qui apprennent le chinois, presque tout le monde qui connaissent ni hao. Normalement, c'est le premier mot qui apprennent. C'est comment c'est ni hao.
Et avez-vous vu l'expo sur les imaginaires à la BEP?
Oui, mais juste, j'ai fait un petit tour, j'ai pas vraiment commencé bien regarder, comme c'est Mais avec les objets, les livres dans les vitrines, quand même, pour moi, j'adore les anciens objets, surtout les livres. Les livres, comment c'est une petite parenthèse, comme j'ai collectionné comme illustration ancienne, journaux. quand même, pour moi, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va être différente. Il y a les objets, il y a des vues. Livre, il a aussi commencé, il y a un écran qui diffuse des documents audiovisuels, c'est une immersion, vraiment c'est intéressant pour les lecteurs.
Et dans l'exposition, qu'est-ce qui vous a marqué ?
Comme tout à l'heure, je vous disais, c'est plutôt la façon de montrer comment ce thème avec les différents supports. Ça, pour moi, c'est plutôt très intéressant.
Et si vous aviez eu la possibilité d'exposer quelque chose, qu'est-ce que vous auriez mis ?
Pour moi, c'est un objet très précieux. C'est vraiment un trésor. À peu près comme un duplicat d'un document impérial de l'époque, si je ne me trompe pas, 1600 ou 1800, comme ça. Ouais. C'est un. Même parce que pour nous, souvent les documents avec les anciens papiers, c'est avec la couleur jaune. Ici, encore conservé, comme j'ai déjà consulté une fois, c'est hyper intéressant. Mais pour moi, comme Toulouse, quand même une ville, on dit c'est accueillante pour les étrangers. Elle est aussi la troisième, si je ne me trompe pas, ville commence à étudiante aussi. Cette diversité, j'aimerais bien peut-être aussi c'est monter quelque chose sur concernant cette diversité. Ça pourrait nous permettre de voyager encore, pas seulement dans le temps, aussi dans l'espace.
Merci beaucoup, Monsieur Sun, d'être venu.
Avec grand plaisir.
Ce podcast a été réalisé par Alexandre Ajos pour Média Commun Occitanie, avec la complicité des participants et participantes à l'atelier et des bibliothécaires. Il est placé sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.